Apéro spécial 5 grosses questions sur les Français en NBA.
Exactement, ça fait un mois à peu près que la NBA a repris et on a eu pas mal de Français encore draftés, on a eu pas mal de Français sur les drafts précédentes et en plus, on a du Briscard qui tient encore bien la route et qui est toujours dans la ligue depuis je sais pas combien de saisons,
oh
on va regarder
là
ça de plus près.
Tout à fait.
Et donc quoi, il y a 17, 19 Français.
Record absolu, ça, 19, 19 Français qui
sous
évoluent.
Contrat.
Autour de la NBA.
Qui est, voilà, qui évolue. Il y en a, on va en parler justement parce que il n'y a pas que du positif là-dedans. Déjà, il y a du négatif avec la blessure de Victor Wembanyama, évidemment, mais.
Tout à fait.
Mais il y a aussi des mecs qui jouent pas du tout. Enfin, bref, il y a tout un. Ouais,
tout
c'est
un
clair. Il y a plein de trucs à dire.
Et donc, moi, je disais à Alex notamment, bah tiens, si ça te va, on n'a qu'à faire un petit apéro spécial français au bout d'un mois en NBA parce qu'on a plein d'actu. Vous l'avez vu, on a fait les pires équipes, les meilleures, les Clippers, le Thunder, les Pistons. On va continuer à parler de ces actus, mais. On a un nombre record de Français en NBA. On l'a d'ailleurs mentionné hein, au tout début de la saison. Hein, vous pouvez retrouver cet article sur le site de Trash Talk. Hein, une cuvée historique avec 19 joueurs français. C'est quand même extraordinaire. Hein. Tous les soirs, on a un Français qui est là et qui peut performer. Et donc, l'idée, c'est qu'au bout d'un mois de compétition, on fasse le point sur tout. Alors, on en avait parlé il y a quelques jours. Timing extraordinaire. On fait l'apéro ce mercredi-là et on se dit, bah attends, mais du coup, comment ça se passe? Parce que, Wemby, paf, ça tombe. Et donc, ça s'intègre dans les grosses questions parce qu'à la base, les questions auraient été est-ce que Wemby peut être MIP, MVP, DPOY, RATP, SNCF ?
Voilà.
Malheureusement, ce sera d'autres questions qu'on va se poser. Donc, fans de basket et fans français, évidemment, qui suivez, vous, la NBA depuis si longtemps et qui suivent les joueurs français, on a concocté 5 petites questions.
Ouais.
Là, je t'en ai balancé quelques-unes. Ouais, on aura des takes et tout un petit peu. Et puis, on vous invite, évidemment, à y répondre. On va pouvoir faire ça.
Ouais, on va faire ça.
Mais avant. Qu'est-ce qu'on a sur la table, Alex ?
On a des coques de téléphone et même tout un tas de petits accessoires qui viennent de chez un de nos partenaires réguliers, Rhinoshield.
Bien sûr.
Parce que cette semaine, c'est la semaine du
Black Friday.
Voilà.
Et donc, ça veut dire que si vous allez dès maintenant sur le site de nos copains de Rhinoshield, vous pouvez avoir jusqu'à moins 50% sur les différents accessoires jusqu'au 3 décembre. Allez-y, foncez. Et vous savez qu'on aime bien vous mettre extrêmement bien. En plus des moins 50% sur certains trucs, on veut vous mettre.
Ouais. Pardon.
En plus des moins 50% max que vous pouvez avoir sur certains accessoires, avec le code Trash Talk, qu'on vous met dans le premier commentaire épinglé, vous pouvez ajouter moins 15%.
En fait, toute réduction peut être augmentée de 15% grâce au code Trash Talk. Donc c'est quand même la classe. Et vous pouvez, par exemple, éventuellement, avoir une coque à la classe comme la mienne. Là, vous voyez ce beau logo là, en filigrane un peu, j'adore. Voilà.
Où il y a
c'est de la coque.
C'est de la très belle coque où il y a zéro joueur français, malheureusement, les Suns.
Non, il n'y a pas de joueur français. Non. Il n'y a pas de joueur français chez
les Suns. À différence des Blazers
de
Sissoko et de Ryan Rupert. À différence de nos amis les Spurs. De notamment monsieur Victor Wembanyama.
Celle-là, j'aime bien là que tu as dans la main.
Et oui, tout à fait. Ça, c'est
ça,
multi-design.
C'est multi-design avec des logos un peu vintage et tout. Ça, c'est si vous savez pas trop vers quelle équipe vous tournez. Et si vous savez pas du tout, puis que vous avez juste envie d'avoir un peu la classe, et vous avez le classique très sobre. Moi, j'aime bien en fait les classiques sobres.
Tu décroches, tu dis oui, c'est Adam Silver.
Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, Rhinoshield, ils sont là encore avec nous cette saison.
Semaine de Black Friday, donc forcément, on leur fait un petit coucou et c'est la sponsor de cette vidéo. Donc vous pouvez foncer dans le premier lien.
On met un petit lien ?
Exactement.
En premier commentaire,
premier commentaire épinglé, vous avez un lien qui vous permet de foncer chez Rhinoshield.
Vas-y, scroll un peu là.
Ah bah, t'as de tout, hein, tu vois, les Warriors un petit peu.
C'est les nouveaux modèles, sympa les nouveaux modèles, un peu transparents, c'est ça ?
Tout à fait. Tu vois, par exemple, là, si je te prends ça, c'est ça que t'aimes bien là.
Mais
tu vois ça par exemple.
Bah moi je trouve ça
petit
marrant.
Un peu du rétro, tu vois, avec un peu tout.
Ouais, les logos un peu à l'ancienne, j'aime bien moi.
Et donc, avec le code Trash Talk, vous pouvez ajouter moins 15% sur vos commandes. N'hésitez pas, ce sont les poteaux de Rhinoshield, ils sont avec nous sur le Black Friday. On est bon ?
Ouais, on est bon.
On a tout ce qu'il faut, on a des coques, on a des joueurs français. Et donc, on va pouvoir discuter. Est-ce que tu es prêt pour la première question, Alex ?
Ouais, je suis prêt.
Première question des 5 grosses questions sur les Français au bout d'un mois de compétition. Faut qu'on parle de l'actu. L'actu la plus chaude, l'actu la plus bouillante. Vous l'avez vu, on l'a relayé évidemment sur toutes les plateformes. Breaking news, élongation au mollet pour Victor Wembanyama qui ne sera pas sur les parquets pendant, allez, minimum 2 à 3 semaines. Il y aura une update.
Oh oui.
Dans 2 à 3 semaines, on l'espère l'avoir. Moi, je ne vous cache pas que début janvier, je vais à San Antonio pour le voir jouer avec 70 Lascar. Donc, j'ai eu un petit coup de chaud. Alex, la première question. Comment les Spurs vont faire sans Victor Wembanyama qui a fait un début de saison stratosphérique ?
Alors, déjà, la entre guillemets bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle pour les Spurs cette saison, je les trouve beaucoup plus prêts cette saison à jouer sans leurs meilleurs joueurs, sans leurs franchise players par rapport à la saison dernière. On l'a vu pas plus tard que dimanche dernier, où deux heures avant le match, on a appris que Wemby, grosso modo, allait pas jouer là contre les Kings. Bon, c'était les Kings là, en face. Mais quand même, Devin Vassell.
Jaren Fox, Devin Vassell.
Ça a pris ses responsabilités, les deux.
Le Cornet.
Keldon Johnson, moi j'ai beaucoup aimé, même si Keldon Johnson va pas remplacer un pivot, mais j'ai bien aimé le fait qu'il a exploité ses minutes, il a allé se bastailler au rebond et tout, moi j'aime bien.
Ouais.
Jeremy Sohan, petit pivot, un peu de Luke Cornet, un peu de Kelly Olynyk. En gros, les Spurs sont mieux équipés. Mitch Johnson, le coach et son staff ont bien plus de quoi trouver des solutions, même si bah genre voilà, je vais vous faire de l'analyse d'experts. On remplace pas Victor Wembanyama, hein, ça c'est pas possible. Non mais c'est voilà, ça va pas le faire, ça va pas être possible. Mais ils peuvent avoir une équipe tout à fait présentable,
oui,
et bien bien chiante à jouer avec un back court. Tu rappelles que Dylan Harper, le jeune rookie, avait très bien démarré, puis lui s'est blessé, mais il faut qu'il revienne. Enfin, tu vois. Donc là, il y a quand même des vrais sujets de blessure sur des forts joueurs côté Spurs. Et pourtant, tu peux aligner un De'Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell avec un Harrison Barnes et puis un Luke Cornet pour démarrer. Et puis après, tu fais rentrer des Keldon Johnson, des Jeremy Sohan. Et puis bon, là, c'est le back court qui va vite être un peu plus court en création offensive, va falloir trouver.
Mais... peut-être tester du McLaughlin un petit peu de retour.
Surtout
dans
que Castle, ça va parce qu'il est sorti en cours de match là. Il m'a bousillé ma TTFL là dimanche là. Ouais.
Il va falloir surveiller aussi Stephen Castle qui s'est fait mal. Mais oui, je pense que le premier truc qui est évident, et notamment pour les gens, soit fans des Spurs, soit gens qui ont vu les Spurs ces derniers mois, ou en tout cas sur les débuts de Victor NBA, le match de dimanche l'année dernière, Victor est absent, ils le perdent les Spurs.
Je suis d'accord.
C'est une équipe qui est désormais prête, de par son recrutement et ce développement, à affronter davantage de challenges en NBA.
D'autres armes. Le ballon peut circuler, t'as Harrison Barnes qui est en feu derrière l'arc, tout de suite, boum, tu fais un bon début de match et tout. De'Aaron Fox, bon là c'était son ancienne équipe, mais ça reste un joueur agressif, offensivement, capable de scorer dans beaucoup de situations. Stephen Castle sait faire beaucoup de choses et tu as des Luke Cornet et des Kelly Olynyk qui vont pas te faire oublier Wembanyama, par contre vont te faire du boulot. Ça va pas être une promenade de santé ta raquette.
Absolument, voilà. Le Cornet c'était un petit contrat très sneaky cet été, le Girardor. Moi je pense que là il va avoir une responsabilité de fou parce que on l'a vu déjà face aux Kings, protection d'arceau, poser des bons écrans et faire des dribble end off. Il est capable de faire et on lui demande pas grand chose de plus.
Ouais, puis il va se battre au rebond, il va faire les efforts.
Oui.
Moi j'aime bien Luke Cornet, c'est un joueur de banc qui est très intéressant à avoir. Hein.
Tout à fait. Si on regarde le planning, même des Spurs, je vous le mets sous les yeux là, avec donc les matchs à jouer de nos amis de San Antonio, vous allez avoir donc pas mal de matchs jusqu'ici, je vous le montre jusqu'à à peu près Noël, hein, avec cette incroyable double confrontation autour de Noël face au Thunder. L'idée c'est donc, c'est précaution maximale de la part des Spurs, hein, on va pas se mentir Alex, si on était en playoff demain matin, peut-être que ça forcerait un petit peu plus sur Victor.
Je sais pas, parce que ce genre de blessure, faut vraiment y aller mollo. On a vu combien de mecs avec des débuts de blessure au mollet où ça s'est fini en tendon d'Achille et tout, attention.
C'est pour ça que je parle de précaution,
ouais,
c'est que si c'était les playoffs demain, tu sais souvent,
peut-être t'auras envie de forcer un peu plus.
Ah, peut-être qu'on joue pas le match 2 mais on jouera le match 3, tu vois, ce serait peut-être pas 3 semaines mais 5 jours.
Tout à fait.
Si on regarde le programme là, donc à venir des Spurs, on va le regarder ensemble, mais il y a des joueurs qui sont très attendus. Toi, Alex, c'est qui le gars là vraiment que tu vas surveiller de très près? Ça peut être le coach, hein, mais Johnson, mais ça peut être De'Aaron Fox ou d'autres. Le gars que tu vas vraiment surveiller
non,
fort,
c'est Fox.
C'est De'Aaron Fox.
Oui. C'est à lui là de montrer que. Alors évidemment, il va pas du tout remplacer Wemby, c'est un meneur et tout. Mais c'est à lui de montrer genre, voilà pourquoi vous m'avez recruté et pourquoi vous m'avez filé une énorme quicheta pendant l'été. C'est qu'en fait, quand on joue les Blazers ou les Suns ou je ne sais quelle équipe comme ça un peu accrocheuse, un peu chiante, en fait je peux être le meilleur joueur sur le terrain même sans Wemby en fait, ouais. Tu vois, je pense que Fox a plus les qualités que Castle qui est beaucoup plus jeune pour moins souffrir déjà offensivement de l'absence de Wemby. Je pense que Castle offensivement, l'absence de Wemby, il y avait un truc et tout,
ah,
donc, et puis il est jeune, il doit apprendre et tout machin, mais donc je pense que Fox, ouais, a les moyens en fait. Moi c'est là où cette blessure, c'est pas vraiment pour les Spurs qu'elle me fait un peu mal, c'est plus pour Wemby lui-même.
Ah, il est triste.
C'est-à-dire que les Spurs, évidemment que ça leur fait mal, mais on vient de le dire, collectivement, ils vont faire des trucs, ça peut même presque, en fonction de la longueur de la blessure de Victor, ça peut même presque être un mal pour un bien, dans le sens où en fait, après, quand Victor revient, t'as des joueurs qui ont pris un peu confiance, même Mitch Johnson, ça lui a donné des idées de rotation, de nouvelles trucs et tout machin. En gros, ça peut éclaircir certains pans du collectif Spurs qui sont un peu cachés par Wemby, où on va dire ah non mais en défense en fait machin tu peux plus le jouer. Avant on s'en rendait pas compte parce que quand il faisait une erreur il y avait l'alien derrière lui pour récupérer l'erreur.
Tout à fait.
Là tu vois les erreurs mon gars vont se voir en défense, on va voir qui vraiment, donc ça me dérange moins. Par contre individuellement on parle d'un joueur français complètement générationnel qui faisait un début de saison en quoi 26 points, 12 rebonds, 12 contre et 4 passes d'ess en course, comme l'a dit Bastien, MVP, deep boy, machin. Là, il va rater peut-être déjà trop de matchs d'un coup pour pouvoir se qualifier pour les trophées. C'est mais moche.
C'est ce que j'allais dire, c'est que je rappelle évidemment la règle, il faut minimum 65 matchs de participation.
Donc
il ne
faut pas en rater plus de 17.
Il ne faut pas en louper plus de 17. Si là on se ramène jusqu'à mi-décembre, tu en loupes déjà potentiellement une dizaine. Là, ça va assez vite en NBA.
Il n'en avait pas loupé déjà depuis le début de saison.
Il avait toujours perfect jusqu'aux Warriors. Enfin. Okay. Jusqu'aux Kings, pardon. Okay. C'était 9 sur 9, je crois, ou je ne sais plus. En tout cas,
non, 12.
12 sur 12. Wemby était impeccable. Et d'ailleurs, il en avait parlé, il avait dit « Je me suis renforcé musculairement. » Et un de ses rêves, c'était de participer aux 82 matchs. Alors, on le sait, les Spurs font très attention. C'est aussi un investissement long terme. Et là, les Spurs, c'est beau aussi de le dire. Hein, tu sais, je le tweetais quand la news est tombée. Les Spurs visent les playoffs, aimeraient voir les playoffs. Et donc, tu as envie plutôt d'avoir un Wemby à 100% quand on se ramène en avril que de trop tirer sur la corde. Toi, tu vas être plutôt sur De'Aaron Fox en attente.
Oui, disons qu'il est expérimenté. Il a déjà vécu des choses. Il est capable, balle en main, de porter une bonne partie de l'attaque. Mmh. Et il a des joueurs autour de lui qui savent shooter. Enfin, il n'est pas tout seul, hein. Et donc, je pense que c'est à lui, là, de montrer des voies qui peuvent être utilisées quand Wemby n'est pas là et qui pourraient servir, d'ailleurs, quand tu as Wemby est en forme, mais tu as des minutes sans Wemby.
Oui.
Du coup, pour savoir un peu comment jouer, je pense que ça passe par Fox, ouais. Ouais.
Par rapport à Victor, au-delà des trophées, évidemment, de fin de saison, je pense qu'on va quand même être dans une situation plutôt favorable par rapport au All-Star, si tout se passe bien, le All-Star Game, parce qu'on le sait que chez les titulaires, notamment, ce sont les fans qui votent. Et vu la cote de Wemby, je pense qu'il aura juste à éternuer pour qu'il soit titulaire, Victor. Donc, tant qu'il revient bien, tu vois, il ne devrait pas y avoir de problème pour être à Los Angeles mi-février, pour avoir cette nouvelle étoile
pour
de All-Star.
All-Star.
Oui, je pense
qu'il faut qu'il revienne début janvier au plus tard.
Voilà, mais sinon, même les fans, honnêtement, ils pourraient dire genre, tu sais quoi, nous on s'en bat les couilles, s'il est là le 3 février, on le prend. Hein. Je pense qu'il aura. Là où c'est plus difficile, c'est peut-être que. Pour la deuxième année de suite, un trophée de défenseur de l'année qui lui tendait les bras va peut-être lui glisser entre les phalanges, les immenses phalanges de Wemby, mais c'est comme ça.
Ouais, mais il y a une règle qui a été mise en place, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Ouais. J'ai vu beaucoup de critiques, mais je peux les comprendre d'ailleurs. Hein, mais bon, il y a une règle qui est là, il faut jouer au moins 65 matchs. On l'a toujours dit avec Bastien, on ne va pas pouvoir faire des exceptions parce que c'est Wemby. Hein. Être sur le terrain, c'est une qualité. Voilà. C'est une qualité.
Objectif Spurs, Alex, sans avoir la date précise de retour, Noël, tu es à 50% de bilan?
Bah, il faut, parce que sinon, ça veut dire que t'as beaucoup perdu. Hein, parce qu'ils sont à combien, les Spurs? Ils sont à 9-4. 9-4 ouais. Attends, bouge-moi, j'y vais.
Je vous mets le programme.
Les Spurs, pour l'instant, sont, au moment où on parle, sont à 9 victoires, 4 défaites.
Ouais.
Oui.
Faut être vraiment. Faut absolument pas flirter avec ces 50%.
Quoi. Remonte un peu, là. Ouais. Donc, nous, on. Non, on est bien. Ouais. Ils sont en 9-4.
Oui, c'est ça, mais si vous voyez la vidéo, probablement il y a eu le match contre Memphis. Donc
bah
c'est
non,
pour
je
ça.
Crois pas, justement.
Si, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, je pense.
Ah oui, t'as raison. Donc si nous, on tourne avant le match de Memphis.
Futur.
On tourne avant le match de Memphis, mais on vous annonce le futur quand même.
Exactement.
Tiens, bah Memphis, typiquement. Équipe qui va pas forcément hyper bien. Ja Morant, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, tout ça, on verra. Ouais. Alors, il va pas jouer a priori. Faut les battre. Même sans Wemby, il faut les faire, il faut que Fox s'impose, il faut réussir à défendre le mieux possible Jaren Jackson, et sur les ailes, il faut gagner la bataille. Ouais. Et c'est possible.
Ah, bien sûr.
Pour ces Spurs-là.
Tout à fait. Dites-nous vous ce que vous pensez par rapport évidemment à cette première question. Comment les Spurs vont faire sans Wemby? On surveillera Victor et vous aurez toutes les updates sur les médias évidemment de Trash Talk, sur toutes les plateformes, hein, dès qu'on aura la moindre mise à jour, probablement dans 2-3 semaines, selon le staff des Spurs. Ça, c'était la première question. Deuxième question, tu es prêt?
Vas-y, raconte.
Deuxième question, évidemment, mon cher Alex.
Uh-huh.
Est-ce que Alexandre Sarr est le franchise player des Wizards? Nous sommes sur un début de saison absolument formidable de la part de l'intérieur français qui nous envoie des pralines très régulièrement. Je vous montre les stats que vous pourrez trouver évidemment sur le site de Trash Talk. Sur 13 matchs, on est à plus de 18 points et 8 rebonds avec 2 contres. On a 52% au tir, on a 35% à 3 points. On a même des situations où c'est vraiment les Wizards qui disent ballon, go to Alexandre Sarr et on va voir comment ça se passe.
Au tir, c'est très très bien.
Oui.
en pick and pop, déplacement sans ballon, prise de shoot. Il y a vraiment eu un bon travail d'Alex Ossar, c'est vraiment très très bien.
Agressivité.
J'ai du mal à le juger défensivement parce qu'il est, en, il est dans une défense absolument
horrible.
Est-ce que c'est le franchise player des Wizards? La question est cool parce que ça veut dire qu'on est sur un joueur français hors Wembanyama et on est en train de se demander si c'est un franchise player. Le problème, c'est que ce soit le
Washington
mot
Wizards,
Wizards, voilà, dans la question. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Alexandre Sarr, qui est encore très jeune, hein, qui est un numéro 1 de draft donc l'année dernière, donc il est dans sa deuxième année, au début de sa deuxième année NBA, est-ce qu'il est en train de nous montrer les prémices d'un joueur qui, depuis son poste d'intérieur, poste 4, poste 5, peut devenir un franchise player ou à minima un lieutenant ou vraiment une option 2-3 d'une équipe forte, en fait?
Oui.
Parce que, franchement, je souhaite plus d'être une option 2-3 d'une équipe forte que d'être le franchise player de ces Wizards-là.
C'est pour ça, bien sûr. C'est pour ça que je le formule ainsi. C'est est-ce que tu es le franchise player de ces Wizards? En gros, c'est par rapport à, aux choix qui ont été faits à Washington ces derniers mois, Bilal, Alex Sarr, Kishon George, d'autres garçons, etc. Est-ce que Washington peut bomber le torse et se dire « Ok, là, on va voir comment ça évolue, mais on a un truc qui est safe, c'est que notre pick 2 de la draft 2024, c'est un banger. On a un gars qui est en 18 points, 8 rebonds, 2 contre et on peut compter dessus. » C'est-à-dire, est-ce que Alex Sarr peut non seulement nous faire 15 matchs là quasiment comme il a fait, mais le faire toute une saison? Parce que tu sais, des coups de chaud comme ça, il y a un an, Alex, quand on a fait un des premiers apéros de la saison, Bilal Koulibaly, c'était Scottie Pippen.
Non, mais complètement.
On a fait les 15 premiers matchs, et t'en souviens, on a dit
on
Bilal.
On était au taquet.
Wow,
Kawhi.
Et après, on s'est calmé fort.
Oui, on en a moins parlé, parce que forcément, ça nous a calmé.
Donc, c'est pour ça que la question, c'est de ce qu'on voit, est-ce que Alex Sarr peut produire ça toute la saison?
Déjà, l'avenir va nous répondre. Moi, j'y crois. Je trouve vraiment que sa gestuelle a bien progressé, ça dégaine vite, on sent qu'il est en confiance, qu'il n'a pas peur de prendre les tirs. Donc ça, moi, au niveau de... On verra s'il arrive à maintenir carrément ces pourcentages-là, c'est magnifique. Mais je pense qu'au niveau scoring, 3 points et tout, je pense que ça peut tenir. Ce qui m'embête, c'est que ses qualités défensives, on a l'impression... En gros, le mec fait 2 comptes par match, il se bat au rebond... Est-ce qu'il est vraiment dissuasif? Est-ce que vraiment ces stats-là... On a la sensation de... Tu sais, parfois on dit des joueurs offensifs, genre on a dit ça longtemps de Booker, ou tu vas dire ça aujourd'hui d'un Michael Porter Jr. aux Nets. Genre en gros, le mec est trop fort offensivement, mais ça stat dans le vide. Et Alexandre Sarr, j'ai l'impression qu'il défend bien dans le vide. Parce que,
ah oui.
Parce que autour de lui, il y a une défense horrible.
Ouais.
Et donc là, toute la question qu'on va se poser un jour, c'est si les Wizards arrivent à faire des choix un peu... qui travaille sur ce côté défensif, qu'on retrouve avec du Bilal ou du Kishon George, ou qu'ils arrivent à retrouver un équilibre défensif meilleur que celui qu'on a là avec Chris Middleton, McCollum, même Bob Carrington en défense, je trouve vraiment horrible. Où effectivement, l'impact de Alex Ossar est dur à estimer parce que ça sert à quoi de faire 2 contre ou 2 contre et demi de moyenne par match dans une défense horrible comme ça, quoi?
Ça sert à rien dans le cadre de l'effectif. Par contre, ce que ça appuie, c'est que Alex Sarr va du coup, on l'espère, continuer sur ce rythme-là et donc montrer qu'on peut compter sur lui dans la NBA. C'est-à-dire que c'est un joueur, un top de draft sur qui on peut compter, c'est-à-dire un des meilleurs jeunes intérieurs de la ligue, à surveiller. Et puis ça nous fait penser aussi à une chose, c'est que, comme tu l'as dit, ce serait un super lieutenant. S'il faut commencer à imaginer dans quelques mois des raquettes Victor Wembanyama, Alex Sarr dans la même équipe, avec le maillot bleu.
Une équipe bleu-blanc-rouge, par exemple.
Tu sais que là,
ouais.
Ce qu'on est en train de voir.
On aime bien.
Tu crois que ça peut fonctionner ensemble?
On aime bien. Et puis en plus, je vais te dire, il y a même un autre intérieur français, et je ne parle pas forcément de Rudy Gobert, un autre intérieur français jeune. Qui pourrait même venir apporter une troisième facette. Parce qu'Alex Sarr, il y a vraiment une facette rim run très bon, contre et shoot de loin, très moderne, super mobile. Le gars, il est grand, il est mobile, il shoot à 3 points. Enfin, c'est moderne de ouf. Mais on a un autre intérieur français, j'y reviendrai plus tard, qui est dans un style différent et qui apporte un truc que ni Alex Sarr ni Wemby n'apportent vraiment. Bref.
On parlera. Mais en tout cas, dites-nous vous ce que vous pensez de cette question, Alex Sarr.
Toi, t'as pas dit, toi. Pour toi, c'est le franchise player des Wizards aujourd'hui?
Je pense qu'évidemment, elle a été tournée. Tu as très bien répondu de manière rigolote. C'est qu'aujourd'hui, bon, tu es le franchise player des Wizards. Félicitations, tu as perdu. Enfin, c'est pas un cadeau. C'est pas du tout un cadeau. Par contre, ce que je trouve très propre, c'est que en 15 mois,
ouais, c'est ça, ouais.
16 mois, si tu prends la draft et l'été qui suit, Alex Sarr est en train de répondre à toutes les questions que le management et les fans des Wizards se posaient. Est-ce que l'image qu'on se faisait d'Alex Sarr quand il a mis la casquette sur la tête, c'était une illusion ou c'est une potentielle réalité? Il est en train de montrer que c'est une réalité.
Ouais, je suis d'accord.
C'est que Alex Sarr, il y a des soirs où tu te dis, bon, eh ben, on va peut-être rentrer dans les territoires où quand Alex Sarr fait une contre-perf, on se dit, c'est vraiment dommage parce qu'on attend mieux de la part de ce gars. Tu vois, on va parler après de Bilal là, dans quelques minutes. On a un peu plus de montagnes russes. Je crois que Alex Sarr est en train de montrer, moi, un aspect qui me fascine sur l'aspect mental. Je crois qu'il est en train de montrer qu'il veut tous les soirs montrer qu'il peut être un des meilleurs gars sur le parquet.
Ouais,
c'est un truc de patron. De jeune patron, mais de bon patron.
J'aime bien aussi, je suis d'accord.
Et puis
il est très moderne dans son jeu.
Tout à fait.
C'est bien.
On a parlé de Wemby, on a parlé de Sarr. On va changer de cap et cette fois, on va parler de draft. Parce que, pas la suivante, mais la précédente. Parce que, voilà, Alex fait le bruit. C'est une des questions qu'il fallait que je pose dans les 5 grosses questions qu'on se pose après un mois de compétition NBA. Pourquoi les joueurs français draftés à la draft 2025 jouent aussi peu? Je vous remets la sélection.
Montre la date du tweet.
Record, on était en juin. Noah Essengue à Chicago, Johan Berenger aux Wolves, Traoré aux Nets, Penda au Magic, Reno aux Kings et Diawara aux Knicks.
Trois joueurs au premier tour, trois joueurs au deuxième tour.
Ouais.
Beaucoup de potentiel, hein, Noah Essengue, Johan Berenger, Nolan Traoré, tout ça, c'est que des joueurs jeunes. Noah Penda et Maxime Reno sont un petit peu plus vieux, ont fait des cursus un petit peu plus longs avant d'arriver en NBA. On a vu Banquero qui dit ouais, Noah Penda trop bien et tout.
C'est limite celui qui a le plus de temps de jeu de tous là.
Les fans des Kings au c'est taquet sur Maxime Reno qui joue pas ou quasi Maxime Reno, alors qu'on peut pas dire que ça soit blindé dans la raquette des Kings.
Puis transférez-moi le Mantas là.
Si tu veux, Noah Essengue aux Bulls, je suis déçu qu'il joue pas, tu vois. Je suis déçu, mais il faut reconnaître que le début de saison des Bulls, entre Matas Boutzelis, un peu de Pat Williams qui se sort un peu les doigts, du Okoro qui est venu manger sur le poste 3/4 un peu là, il utilise en 3 presque 4 Okoro, ouais. Même s'il est un peu petit et tout. Je dis pas que ça me fait plaisir, mais je peux déjà un peu plus comprendre Billy Donovan et son staff qui disent bon, le Frenchie là avec le potentiel de malade. Il va se faire les dents un peu plus en G-League et puis on verra.
Il a fait quelques perfs. Hein.
Non, il a fait quelques perfs en G-League. Ouais. Mais tu vois, il a pas joué du tout chez les grands encore, Noah Essengue. On est d'accord, il a pas une seule minute où j'ai de la merde.
Je vais vérifier. Pour moi, ça a été full G-League.
Pour moi, il a pas une minute. Tu vois, au moins, ça a le mérite d'être franc du collier.
Pour un pick 12 de draft.
Pick 12 de draft, pas une minute, mais si tu veux, Matas Boutzelis, Patrick Williams, un peu d'Okoro, il a glissé vite fait des Julian Phillips ou des gars comme ça, on verra. C'est ces gars-là qu'il faut qu'ils visent, même Werther est utilisé en 3. Enfin, c'est ces gars-là, c'est le temps de jeu de ces gars-là qu'il faut qu'ils visent Noah Essengue. Mais je trouve qu'il y a une logique dans le fait qu'il n'ait pas encore joué. Johan Berenger
a eu,
Johan Berenger a eu des bouts de temps de jeu.
Ah ouais.
Dans des garbage time.
Voilà, dans des blowouts, il a dit.
C'est pas si mal ce qu'il a montré. Et le fait qu'il rentre comme ça quand il y a garbage time, ça veut dire que Chris Finch et son staff, dans la rotation intérieure derrière lui, il a un gros trio devant lui. Hey, Gobert, Randall, Nasrid. Pardon, là, t'as trois joueurs. On lui souhaite à Johan Berenger de venir en déloger un de ces trois-là de la rotation. Mais tu sais qu'il va falloir, falloir envoyer. On le savait avant. C'est pas une surprise de ouf.
Non, tout à fait. Il y a un élément qui va dans son sens,
ouais,
et que j'ai très hâte de voir. C'est que Berenger, en effet, les fans, les coéquipiers et le staff voient ce dont il est capable.
Ouais.
Dans un rôle très précis. Et donc, l'apport peut être très rapidement efficace pour Johan Berenger. On ne va pas attendre des dingueries comme avec Sarr où tu as la balle en attaque et tout. C'est vraiment protection d'arceau, galoper, poser des écrans et rebond offensif. Et ce que j'aime bien, c'est que Chris Finch a parlé de l'écart énorme qu'il existe encore actuellement entre le 5 majeur des Wolves et le banc. Parce qu'il y a un écart, vraiment. Pour le moment, les Titu, Randle, formidable et tout, et même Rudy est en forme. Mais tu vois, la façon dont Conley est décalé un peu sur le banc, c'est compliqué. Et donc, j'étais
curieux de voir Chris Finch parler de « il va falloir qu'on donne encore plus de responsabilités au banc parce que pour qu'on soit une équipe complète en mai, parce que vise les Wolves quand même, hein, double finaliste de conférence en titre, eh bien, il faut qu'on soit 10 deep.
Ouais. »
Et donc, peut-être que là, on pourra avoir quelques surprises. Là où je suis curieux, c'est que je pense qu'en ayant eu quelques minutes là sur le début de saison, Johan Berenguer, je ne souhaite de blessure à personne, mais il est à une absence, je pense, d'avoir du vrai temps de jeu. Et quand je dis vrai, c'est 12-15 minutes.
Bah, disons que ce qui est intéressant, c'est que sur les micro-bouts de match, il a eu un peu d'impact. On l'a vu. Ah. Il y a des comptes, il y a un petit rebond qui va bien, il y a quelques petits points. Il y a eu des petites choses. Maintenant, tu vois, là, je sortais un peu le minutage. Chris Finch, si tu regardes un peu la rotation en termes de minutes depuis le début de saison, il a 10 joueurs à qui il file du temps de jeu, c'est-à-dire 10-11 minutes ou plus. Celui qui a le moins de minutes, ça part de Rome Dillingham, en passant par les autres jeunes, là, tu vois, Terrence Shannon Jr., Jalen Clark, tu vois, qui n'ont pas des grosses
pas
minutes.
Trop. Ouais, ils ne les font pas trop jouer.
Non, mais ce n'est pas le poste de Johan Berenguer, de toute façon.
Exactement.
Le vrai problème de Johan Berenguer, c'est que dans les grosses minutes, il y a Randle, Gobert, McDaniels et Nazrid qui sont dans les 6 plus gros temps de jeu. Ils sont 4 dans les 6 plus gros temps de jeu des Wolves.
Et les 4 cartonnent en plus.
Et ils sont dans leur rôle, ils sont très solides, ils sont assez complémentaires les uns des autres. Donc, pour s'intégrer dans cette rotation-là, il va falloir vraiment grappiller. Parce que par contre, l'avantage qu'il a, c'est que parmi tous les jeunes joueurs à développer, il n'y a pas de concurrence. En fait, les intérieurs, ils jouent déjà dans la rotation. Et en fait, en bout de banc, il n'y a pas d'autre intérieur que Johan Berenguer.
Tout à fait.
Donc, il y a un coup à jouer, tu as raison.
Il y a un coup à jouer. On va surveiller pour donc Noah Essanguet dans un registre différent à Johan Berenguer. Vient la question de Nolan Traoré. Alors, drafté par les Nets en 19e. On se disait, ah, chouette. Il y a des possibilités.
Ah bah, équipe de merde, équipe de avec du temps de jeu affilé.
Puis, 3 heures plus tard, on a vu qu'il y avait une espèce de folie. Il y avait 8 meneurs. Avec en effet Ben Saraf et compagnie. Nolan aujourd'hui il est en G League.
Il a joué quoi? Il a joué 3 matchs, 4 matchs? Un truc comme ça, non?
Et en G League,
3 matchs.
Il n'y a pas eu énormément d'explosion. Alors il faut donner du temps. Mais Nolan, au niveau des pertes de balles, c'est un peu compliqué. Au niveau des pourcentages, ça peut être un peu compliqué. Heureusement, je touche du bois, c'est désolé, hein, mais on en est là. Ben Saraf s'est blessé, donc il va peut-être avoir encore plus de responsabilités en G League. Mais Nolan, Alex, là c'est compliqué, même si ça devient compliqué même de faire les nets.
En fait, le problème c'est que et Nolan Traoré et Ben Saraf, sur le peu qu'ils ont montré, Ben Saraf un petit peu plus utilisé.
Il a été titulé. Hein.
Il a été titulé et tout. Pour moi, honnêtement, pour l'instant, c'est pas le niveau NBA.
Pas le niveau NBA.
Ni l'un ni l'autre. Hein.
Ouais.
Ni l'un ni l'autre. Et donc, je pense que Jordi Fernandez, si moi je pense ça, je pense que peut-être que dans le staff et Jordi Fernandez, ça se dit un peu le même genre de. Ça fait un peu le même genre de raisonnement. Egor Demine, pour le coup, qui a drafté en 8, on commence à voir un peu, c'est quand même un vrai joueur de basket. Et après, on voit bien, vu que les Nets jouent rien, bon, bah, t'as les balles, Michael Porter Jr., ça va être le premier ball handler de l'équipe. Après, il y a Cam Thomas. Ils ont pris Terrence Mann qui a d'un assez gros temps de jeu, qui est un combo, plutôt un 2, mais un peu combo, qui aime bien porter la balle. En fait, le problème qu'il y a, c'est que Sabo est une équipe relativement faible, hein, même très faible, les Nets. Il y a Tyrese Martin, Terrence Mann, Egor Demine, et on file des balles à Cam Thomas, et on file des balles à Michael Porter Jr.
Tu parles des Bulls 96.
Mais le problème, en fait, c'est que il y a énormément de monde. Il n'y a pas tant de monde que ça qui a un vrai niveau de titulaire NBA. Il y en a pas mal qui n'ont pas forcément le niveau même pour être sur le banc, mais il y a du monde. Donc, faut absolument que Nolan Traoré prenne ça en compte. Et vraiment, il faut qu'il trouve les moyens de passer un cap. Parce que sinon, ça va être dur de faire les nets, effectivement. T'as raison.
Ça va être compliqué.
C'est chaud. Hein. C'est dur. Hein. C'est là aussi, on voit. Parce que pur joueur, hein, vrai basketteur. Ouais. Mais c'est dur. Hein.
Pour faire un peu plus condensé, Noah Penda, Maxime Reynaud et Modiawara. Alors, Modiawara, il n'y a pas eu tout le temps de jeu chez Enix. Mais ça, on en parlera après à l'Enix. Parce qu'il y a un autre intérieur français qui essaie de faire sa place. Mais Maxime Reynaud, Noah Penda, Alex, Penda, pas mal de temps de jeu intéressant à Orlando. Quand je dis pas mal, c'est par rapport au reste des gars draftés. Hein. Il y a des responsabilités parce que tout de suite, comme tu l'as dit,
il est dans le groupe et plus âgé.
Donc, il sait qu'il peut tout de suite apporter dans les winning plays. Noah Penda, comme c'était attendu, joueur très collectif, qui va pouvoir bien défendre, qui est intéressant. Moi, j'aime bien ce qu'il apporte.
Tout à fait. Moi aussi, j'aime bien. Je pense que Jamal Mosley, son staff, ils aiment bien. Je pense que Banquero, ça, ils aiment bien. Là, pour le coup, on est dans des circonstances très différentes. un peu comme Noah Esenge ou Johan Berenger, dans le sens où les équipes, bon, même si le Magic a du mal en ce début de saison, mais ils vont se mettre en route. Eh, c'est la place de qui qu'il faut qu'ils prennent quand tu vois comment Tristan.
Ça joue quelque chose.
Eh, comment Tristan da Silva joue.
Oh.
Plus Franz Wagner, plus Banquero, plus un peu de Jonathan Isaac, plus waouh, Noah Penda, il y a du monde sur le chemin.
Ouais, à la limite, c'est une des satisfactions là, de cette QV, là, Noah Penda en bout de 15 matchs.
Tout à fait, ouais. Parce qu'il a des bouts de match, et puis il est dans le groupe, et dans un vrai groupe qui joue des trucs. C'est-à-dire, dans un vrai groupe qui joue des trucs, t'as le franchise player qui t'a un peu adoubé, t'as le coach qui a l'air de dire « Ok, vas-y, sors du banc dès qu'il y a un peu de place. » Donc, il y a peut-être des coups à jouer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un gap qui me paraît assez énorme.
Ouais.
C'est-à-dire que là, il y a vraiment des gros gars devant lui. Quoi.
Non, c'est compliqué. Je crois que celui pour qui je croise le plus ses doigts, c'est Max, hein. Max Reynaud, hein, si tu nous regardes. Hein.
Max Reynaud, c'est ma plus grande frustration. C'est début de saison.
Vu la gueule
c'est
des
quoi,
Kings, vu la gueule des Kings, t'as envie qu'il ait plus de temps de jeu. Drew Eubanks, j'en ai plein le cul. Et à la limite, là où je suis content, c'est que Sacramento, ça a une gueule d'équipe, comme on l'a dit, à la deadline où tout peut partir en freestyle, à commencer par Sabonis. Et donc, je rêve que Max ait un petit peu de temps de jeu, parce que je pense que quand il va avoir du temps de jeu, l'aspect offensif va se voir très très vite. Et vu que les Kings ne jouent rien hormis la future draft dont ils ont leur pick, on y va à fond. Donc, juste par rapport à la question globale, on est d'accord que cette QV, donc 6 Français draftés, la difficulté c'est entre les joueurs qu'il y a sur ton poste et les franchises dans lesquelles tu as été drafté qui ont donc des aspirations, difficile pour ces gars de se faire de la place.
Difficile. En fait, voilà, nous on s'intéresse à eux parce que bah ils sont français, on est un média basket français et tout. Mais voilà, hein, Johan Berenger ou Nolan Traoré, c'est des picks 17, 19 de draft. Bah, c'est pas les premiers picks 17, 19 de draft à avoir du mal à se faire un trou dans leur effectif.
Oui.
Et Noah Penda, Maxime Reynaud et Mo Diawara sont des seconds tours et les seconds tours ont souvent du mal. Enfin voilà, il y en a pas tant que ça qui font des carrières longues.
Oui.
Et donc du coup, ils sont dans des situations malheureusement assez classiques pour des rookies. Et c'est là aussi où ça nous rappelle à tous que voilà, la NBA c'est l'élite de l'élite et que faire ton trou c'est compliqué.
C'est ça, c'est je sais plus Aaron Gordon qui avait sorti en début de saison qu'il faisait partie des je sais plus combien de pourcents à avoir fait 10 saisons minimum en NBA, ce qui est donc rarissime.
C'est rarissime.
Et donc c'est pas facile, il n'y a que 450 jobs par an, il faut essayer de les prendre. Courage à ces Français et on va surveiller notamment très fort cette QV qui va essayer de se faire de la place, notamment quand on va arriver en mars-avril.
C'est dur, hein, mon Dieu que c'est dur.
Ouais, c'est compliqué. Question suivante, Alex.
Ouais, vas-y.
Quelle place pour Gershon Yabusele et quel spot dans la rotation des Knicks? Alors Gershon, il nous avait régalé à Philly dans un rôle qui lui allait à la perfection de retour dans la Ligue américaine. Choix cet été signé chez les Knicks, énormément de hype et on ne va pas se mentir, c'est compliqué pour
à
Gershon.
À la base, il y avait un besoin en
plus. Il y avait un besoin, Mike Brown qui débarque, on est derrière Karl-Anthony Towns, Mitch Robinson et compagnie. Aujourd'hui, Gershon Yabusele, il y a un peu moins de 10 minutes de moyenne. Avec un peu moins de 3 points et de 3 rebonds à 32% au tir et 32% à 3 points. Ça doit être hyper dur mentalement pour Gershon. C'est compliqué. Comment on s'ajuste en fait quand c'est comme ça? Parce que tu dois rester prêt, mais en même temps, il n'a pas trop le rôle qu'il avait à Philly
ah bah
où c'était
l'autre, il avait joué pivot
feu vert.
En
ouais, où on avait Alex à Philly, un espèce de Gershon feu vert, tu sais, où vraiment offensivement il pouvait tout donner. Offensivement il pouvait tout donner. Là c'est dur.
Bah là c'est difficile parce qu'il doit, quand il rentre en jeu, il y a d'autres joueurs offensifs qui doivent être servis avant lui et tout. Donc c'est un rôle différent. Mais moi ce qui m'énerve un peu, après voilà, hein, c'est le jeu, hein, mais dans le coaching là de Mike Brown, c'est que il est poli Mike Brown quand on lui parle, mais je suis pas sûr qu'il compte beaucoup sur Gershon. Ça m'énerve.
Ouais, mais pour...
Je suis pas sûr, bah, moi je sais pas pourquoi. Tu vois, par exemple, là j'étais en train de vérifier, mais pas plus tard que le dernier match là contre Miami. Bah, contre Miami, t'es dans un match serré. Mitchell Robinson n'a joué que 18 minutes. Mitchell Robinson, voilà.
Qu'ils ont perdu, les Knicks.
Ouais, les Knicks ont perdu. Bon, voilà, je sais pas si Gershon leur aurait fait, mais il a toujours joué que 10 minutes. Gershon, il a préféré mettre Josh Hart et forcer un peu sur Karl-Anthony Towns au poste de pivot avec trois ailiers, parce que je rappelle qu'en ce moment il manque OG Anunoby aussi, hein.
Et Jalen Brunson.
Moi quand John, oui, mais OG Anunoby, Mitch Robinson peu de minutes plus OG Anunoby absent, dans ma tête je me dis ah c'est cool, Gershon il va avoir des minutes. Bah à peine 10 minutes. Bon,
non,
pas de ballon.
Ouais.
Est-ce qu'il a... Non, il a pas tiré. Il a pas tiré. En 10 minutes, il a pas tiré. En fait, en 10 minutes, il a pris 3 rebonds. Voilà, c'est la ligne de stats de Gershon.
Bah parce
il
n'y
a pas de tir,
que...
il n'y a pas d'assist, il n'y a rien.
Et c'est ça qui est hyper frustrant.
Il
c'est
pas
que
le ballon.
C'est que j'ai l'impression exactement qu'il a un rôle de éboueur de luxe, Gershon, ce qui n'était absolument pas sur le papier. Parce que là, du coup, tu dois poser des écrans en béton pour Landry Shamet.
Ça, à la limite, pourquoi pas.
Ouais, mais donc du coup, à la limite, tu peux en avoir pour un ou deux. C'est-à-dire que pour Jalen Brunson, moi, j'entends. Mais quand tu commences après, offensivement, à passer dans la rotation derrière Landry Shamet ou Miles McBride, j'entends. Non. Mais c'est chaud. C'est chaud. C'est-à-dire que là, Gershon, je pense qu'il a plus posé d'écran quasiment que touché de ballon sur le début de saison. C'est dur. C'est dur. Et donc, après, on n'est pas en train de pointer tout le monde du doigt et pas Gershon. Lui n'a pas trouvé son rythme et rentré ses tirs. Et parfois, on se pose des questions aussi, forcément, défensivement, s'il peut faire la différence. Mais le fait est que en manquant de structure avec un rôle clé, moi, j'ai le sentiment que Gershon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir chaque soir.
Non, ça c'est sûr. Après,
alors que Philly, il savait.
Après, nous, on était hyper hypés de voir un Français débarquer, maillot d'Enix, tout ça, machin. Bien sûr, les fans d'Enix français au taquet, il y a besoin. Et en même temps, on s'en rend compte là avec le début de saison d'Enix. Là, en l'absence d'Anunobi particulièrement, qui est quand même un bon défenseur, c'est ça dont les Knicks ont le plus besoin. Au-delà des qualités offensives de Gershon, ils ont besoin d'un type qui défend et qui vient se battre au rebond. Parce qu'en fait, malgré les absences, là un peu Brunson, Anunobi et tout, les Knicks restent une putain d'attaque là, sur ce début de saison. Leur sujet, c'est la défense.
Ouais.
Et là, Gershon, ce qui lui est demandé ne colle pas forcément à son profil. Du coup, Mike Brown, il sait pas comment faire. Il préfère forcer sur Josh Hart. Enfin,
c'est très compliqué, c'est compliqué pour Gershon. Ouais,
ouais, c'est vraiment déçu. Moi, je suis déçu pour lui là.
Hyper déçu. Ouais, tout à fait. 50% au tir l'année dernière, 38% à 3 points. 70 matchs avec 27 minutes par soir. Il mettait 11 points de moyenne, Gershon, l'an passé avec une
Après, dans des Sixers tanking aussi. Hein. Là, oui. Il est dans une équipe qui gagne, là, qui gagne, hein, parce qu'ils veulent gagner et ils gagnent des matchs.
Mais on va croiser les doigts fort parce que là, pour Yabusele, là, c'est difficile. Mais donc, comme quoi, faites gaffe aussi où vous signez. C'est-à-dire savoir quelle est ta place et quelle responsabilité tu vas avoir.
Après, quand
chaud.
Il a signé, il y avait pas encore le. Enfin, il y a des histoires de coach et tout. Enfin, il y a plein de paramètres, quoi.
Ouais.
Et puis, ça peut bouger. Mike Brown, c'est pas quelqu'un forcément d'obtus. Il peut encore se passer des choses, ça peut avancer. Mais c'est sûr qu'on comprend bien là que les opportunités vont être rares. Et il y a intérêt qu'il envoie du sale.
Courage, Gershon, ouais. Évidemment. Et les fans d'Enix, dites-nous, et fans français, ce que vous en pensez. Mais vrai aspect tristoun, hein, Gershon.
Ouais.
J'ai un débat.
Vas-y.
Pour la cinquième question.
Vas-y.
Un débat un peu piquant, mais qui mérite d'être posé. Une question qui mérite d'être posée. Cinquième question de cette vidéo. Est-ce que Zachary Zaché est déjà meilleur que Bilal Koulibaly? Je m'explique. D'un côté, Zachary, rôle très clair, équipe qui essaye de jouer collectivement, qui vise quelque chose. Atlanta, Zachary Zaché, on a vu très grosse chute à Phoenix, on espère que tout va bien, il nous a dit que tout allait bien. Et rôle sympa, c'est-à-dire catch and shoot, mettre des 3 points, un peu de dunk en transition.
Titulaire dans une équipe qui joue vraiment des trucs, qui est ambitieuse et
donc,
tout.
Vrai rôle, exactement,
ah non,
comme tu disais là, c'est un vrai rôle.
Ouais.
Et en plus, Zachary ne chute pas à. Il avait fait une saison rookie correcte, même top podium rookie de l'année. Il n'y a pas eu une chute, c'est-à-dire que Zachary Zaché, il continue à mettre quand même un paquet de ses 3 points, si je ne dis pas bêtise, même s'il a le pourcentage de 35%, mais ça va et ça vient. Et il y a toujours la transition. Enfin, je veux dire, il est à 13 points de moyenne. C'est pas une chute par rapport à la saison rookie. De l'autre côté, on a vu avec Bilal, toujours autant énormément d'attentes. Hein. Toujours Bilal, potentiel, voilà, la saison dernière, etc. Blessure. Qui fait que pendant le camp d'entraînement et le début de saison, il pouvait pas être là. Mais quand on voit Bilal et Zachary Zaché jouer en ce moment, c'est un peu taquin comme question, mais je la pose.
Oui. Après, c'est taquin, c'est surtout taquin dans le sens où qu'est-ce que ferait Zachary Zaché aux Wizards ?
Et que ferait Bilal à Atlanta ?
Et que ferait Bilal à Atlanta ? Tu les inverses là. Tu mets Bilal en 3 à Atlanta et tu mets Zaché en 3. Wizards, je veux bien voir comment Zach se débrouille. Pas simple.
Je pense que sa production au scoring augmente.
Bah, je suis pas sûr. Il joue quand même beaucoup sans ballon. Il bénéficie beaucoup du mouvement de balle assez intéressant des Hawks. Il bénéficie beaucoup de Jalen Johnson, incroyable. Trae Young est blessé, mais au début de saison, il y avait Trae Young. Dyson Daniels qui distribue bien et tout. Il bénéficie beaucoup d'un collectif qui marche mieux.
Oui.
C'est sûr. Offensivement. Après, Zachary Zaché est un meilleur shoot que Bilal Koulibaly, ça, c'est pas une question de collectif autour de lui, c'est un fait.
Oui.
C'est un fait. Après, Bilal était attendu différemment. L'année dernière, tu l'as dit tout à l'heure, il nous avait montré des choses en début de saison, on s'attendait, et là, on a du mal à les retrouver. Moi, en fait, je trouve que Zaché est dans la continuité de sa saison de rookie. Alors que Bilal Koulibaly a du mal à trouver la continuité depuis son début de saison sophomore, où on s'est tous dit « Waouh, incroyable, les super progrès !» Et derrière, on s'est fait un peu doucher. Donc, ils ont à peu près le même âge. Ils ont à peu près le même âge, non? C'est du 21 ans.
Oui,
20-21 ans.
Ouais.
Enfin, ils ont à peu près le même âge. Ils sont amenés, on l'espère, à évoluer ensemble sous le maillot bleu. Parce que tu peux en avoir un Bilal en 2, Zach en 3, bah là, ou des choses comme ça.
Bilal était titu avant de se blesser au dernier Euro et Zachary était en sortie de banc, si
voilà,
tu veux préciser.
Voilà.
Ouais.
Donc tu peux tout à fait imaginer ces choses-là. Donc maintenant, leurs qualités de départ ne sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'à la base, je répète, un Zach Rizaché a un bien meilleur shoot, à la base.
Oui.
Que Bilal Koulibaly est un peu plus un défenseur sur l'homme, intercepteur et tout. Là où Rizaché est plus un joueur d'aide, il peut défendre sur l'homme, mais c'est un joueur... En gros, Zach Rizaché me fait un petit peu plus penser à un profil à la Batum.
Oui.
On lui souhaite. Tiens. Une carrière longue comme ça à la Nico Batum, on lui souhaite fort.
Bien sûr.
Alors que Bilal Koulibaly, en profil français, c'est pas facile de le comparer.
Non, c'est compliqué. Hein.
C'est pas facile de le comparer en profil français, c'est vrai. Hein. Donc on va pas le comparer à un profil français, on le comparait à des gros joueurs américains. Mais il va falloir qu'il trouve son rôle et son rythme, Bilal Koulibaly. Je pense sincèrement que c'est pas mal dans la tête et qu'il faut qu'il se remette en confiance et que ça doit pas être si facile que ça au sein de ces Wizards-là.
Il faut donner du temps à Washington.
Donc répondre à la question que tu as posée au départ là, qui est un peu en mode taquinerie. Là sur le début de saison, ouais, on a envie de dire que Rizaché, il est déjà en train de dépasser Bilal dans le côté performance et dans le côté je vais me faire une place sur le long terme en
Bien
NBA.
Sûr.
Ouais.
Je pense que personne, malgré le fait que évidemment Zachary est un numéro 1 de draft et Bilal est quand même un top 10.
Oui, ça va, c'est un top 10. Hein.
Mais voilà.
C'est un 7.
Je sais pas si on attendait forcément des superstars. On était plutôt sur des joueurs de complément qui allaient se développer. Moi, je donne du temps à Washington et à Bilal, de par tout le contexte qu'on a dit, hein, blessure, équipe de merde, etc. Juste, je remets le doigt sur ce qu'on a dit pendant les 30 previews. Quand on a fait la preview des Wizards, on a dit attention. Si tu as un bon développement de Kishon George, Bilal, il va vite devoir comprendre qu'il n'est plus seul.
Mmh.
Et là, en l'espace de quelques semaines, non seulement Kishon, il montre quand même que ce n'est pas la moitié d'un basketteur, il se développe bien sur ce poste, donc les minutes, il va falloir fort les partager.
Ils peuvent jouer côte à côte. Hein.
Ils peuvent aussi jouer côte à côte. Et des deux Français, entre Alexar et Bilal Koulibaly, on vient d'en faire une question isolée sur Alexar, parce qu'aujourd'hui, la courbe de progression entre Alexar et Bilal Koulibaly, c'est pas la même.
Non, il n'y a pas photo.
C'est pas du tout la même.
Non, non, tout à fait, il n'y a pas photo. D'accord.
Et donc, c'est ça sur lequel j'attire l'attention, c'est Bilal, potentiel énorme, défenseur fort et qui nous a montré des choses hyper intéressantes, comme tu as dit en début de saison dernière. Attention, parce que si ça stagne un petit peu, la NBA, elle est impardonnable et on va se dire, bah ouais, en fait, aujourd'hui, un Zachary Rizaché, il continue à trouver sa voie en NBA dans une équipe compétitive avec un rôle précis. Il est capable d'avoir quelques coups de chaud et d'améliorer sa défense, alors qu'avec Bilal, on continue à se dire what if.
Et puis surtout, Bilal, va falloir rentrer des tirs, là. Parce que là, la NBA, c'est impitoyable là-dessus. Faut rentrer des tirs. Ce qui serait le plus terrible pour Bilal Koulibaly, ce serait que les Wizards commencent à trouver, à progresser, bon, pas cette année, hein. Peut-être on verra en deuxième partie de saison, ils vont peut-être me surprendre, mais c'est à progresser et que cette progression se fasse sans lui.
Oui.
Parce que pendant ce temps-là, effectivement, pour faire le comparo avec Rizaché, bah lui, Rizaché, il est titulaire. Et j'ai pas l'impression que ça soit un titulaire par défaut.
Non,
c'est pas,
pas
un titulaire par défaut.
Non.
C'est pas comme si on était là en train de dire ouh, attention, quand il y a machin, va revenir de blessure. Non. Il est titulaire.
Et quand il se fracasse la gueule à Phoenix, c'est lui qui lance le run. Et après, quand il se casse la gueule et qu'il va dans le vestiaire, Jalen Johnson dans le temps mort, il dit les gars, Zachary il est plus là, faut qu'on gagne pour lui, faut qu'on se réveille.
Ouais, il fait partie du groupe.
Ouais.
Il fonctionne bien, il est très complémentaire. Jalen Johnson, ça m'étonne pas qu'il kiffe Zachary Rizaché. Jalen Johnson, il peut s'éclater, il a de l'espace de fou malade. C'est aussi parce qu'il y a du Zach Rizaché et du Porzingis et des gars comme ça qui. Et ouais! Donc c'est ça le truc. Et donc dans ce système-là mis en place par Quinn Snyder, on verra au moment du retour de Trae Young, mais ça n'impacte pas directement Rizaché. Et donc c'est là où effectivement, aujourd'hui, la trajectoire de Bilal Koulibaly, elle est en danger.
Oui.
Alors que celle de Zach Rizaché, elle est sur la phase ascendante. Ouais. Quoi.
Et donc c'est ça qu'il faudra surveiller. C'est attention parce qu'on a passé tellement de temps à avoir des étoiles dans les yeux par rapport à l'image que pouvait être Bilal.
Oui.
C'est ça que je disais par rapport à Alex Carr, c'est que tu vois, les fans des Wizards, ils avaient une image de Alex Carr quand ils l'ont drafté et elle est en train de devenir concrète.
C'est ça le problème.
Alors oui, peut-être que certains vont dire, bah oui, mais frérot, on a dit la même chose avec Bill l'année dernière, saison 2 et 15 premiers matchs ont été fous de fou. Mais là, voilà, faut vraiment que Bilal trouve sa place. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça. On va terminer avec une take un peu générale.
Allez.
Parce qu'évidemment, il y a d'autres Français dont on n'a pas parlé. Hein. Rudy, Gobert, Nico, Batum, Moussa, Diabaté, évidemment.
Moussa, j'en parle tout de suite.
On va en parler évidemment. Ousmane Dieng, d'autres garçons peut-être dont je n'ai pas parlé. Je fais juste le tour un petit peu de nos amis les Français. C'est ça, Ousmane Dieng. Mousse, tu vas en parler là maintenant. Non, après, c'est les garçons qui ont été draftés. Bah, justement, et Tijan Salin aussi. Ouais. Et justement... Je te propose, allez-y, rentrer, déposer le téléphone, il n'y a pas de problème. On est en plein tournage, tu peux le déposer. Ouais. Hop là, je te prends le téléphone, fais voir. Oh, tu peux le poser là au sol, c'est très bien.
Ça a été le long métrage ?
Ça a l'air impeccable. Ouais, on est en train de tourner, mais c'est
nickel. On est en train de tourner,
t'inquiète.
À toutes.
À toutes.
Et, ouais, je parle de Moussa, moi ?
Oui, tu peux parler en effet de Moussa et faire donc une take. Alex, ta take un petit peu là pour finir. C'était sur Moussa, tu m'en parlais en off.
Alors, j'ai deux choses. Déjà, avant la take, Moussa Diabaté. Pour tous les Français là, dont on vient de parler, Noah Penda ou Noah Essengue, Johan Berringer, Max Reynaud, tous ceux qui ne jouent pas ou qui n'ont pas encore trouvé leur place ou qui ont vraiment des temps de jeu faméliques, on va dire.
Oui.
Regardez ce que vient de faire Moussa Diabaté. C'est l'exemple même du gars qui montre qu'il ne faut rien lâcher.
Ça charbonne.
Il ne faut rien lâcher. Regarde les stats de Moussa, plus loin en dessous. Regarde en première année combien de minutes il avait par match.
Il mettait 2,7 points et il jouait 9 minutes.
6 minutes la deuxième saison. Il a joué que 11 matchs.
Bien sûr.
La deuxième saison. Rien du tout. L'année dernière, la 2024-25, là, il se retrouve au Hornet. Ça lui fait un petit peu plus confiance et ça commence à mettre des stats. Dans la foulée, il signe un contrat sur plusieurs saisons. Et là, cette année, vraiment, je kiffe son début de saison.
Et ce chiffre, Alex ?
Oui. Alors, j'arrive sur les rebonds offensifs. Mais au global, je kiffe le début de saison de Moussa Diabaté. Il se place bien, il s'applique en défense, il a progressé notamment en aide, il y a beaucoup plus de contres et tout, ça commence à être vraiment bien.
Même offensivement ?
Et offensivement, il y a du toucher, il y a des moves d'ailleurs, on le met de plus en plus dans des pick and roll où il reçoit la balle en roulant, il arrive à finir, même avec la faute, provoque un peu plus de lancers, enfin vraiment il est sur un début de saison super, il fait régulièrement des double-doubles parce que oui, dès que Moussa Diabaté va atteindre les 10 points, il y a double-double alerte. Forcément, parce que l'autre au rebond. Défensivement, il y a des Miles Bridges, des Lamelo qui viennent manger un peu dans son assiette. C'est des mecs qui viennent prendre du rebond défensif et tout machin. Il en prend quand même pas mal. Kalkbrenner, mais ils jouent rarement ensemble.
Ah ouais, mais bon.
C'est l'un ou l'autre, souvent, Kalkbrenner. Qui est pas mal, hein, le jeune Kalkbrenner, tout à fait. Profil complètement différent, mais intéressant. On se demandait ce qu'allait valoir la raquette des Hornets. C'est pas si minable, franchement. Et c'est même parfois, certains soirs, très bien, grâce à l'impact de Moussa Diabaté, qui fait partie aujourd'hui des meilleurs rebondeurs offensifs de la Ligue, mais genre vraiment, vraiment, vraiment.
Top 5. Hein.
On a regardé les stats avec Bastien.
Top 5.
Aujourd'hui, dans la Ligue, il n'y a que Steven Adams et... C'est qui l'autre ? Attends, je les ai là. Il y en a un autre que j'avais
Jalen Duren.
Jalen Duren est juste derrière, il me semble. Non, Jalen Duren est devant. Bon, non, Jalen Duren, c'est tellement un monstre rebond offensif.
Il y a Klingan.
Le meilleur rebondeur offensif, c'est 5 par match, c'est Steven Adams.
Il joue 10 minutes en plus.
On fera un apéro sur les Rockets. Hein. Ouais. Les Rockets et les rebonds, c'est à eux. Voilà, c'est à eux les rebonds. Jalen Duren, qui est un monstre absolu. Donovan Klingan. Et après, c'est Moussa Diabaté. Devant Giannis Antetokounmpo. Devant Alper Engengun. Devant Domantas Sabonis.
Ah, non,
c'est un rebondeur de malade mental. C'est le Rodman français.
Exactement.
Grand, parce qu'il est grand, Moussa. Hein.
Ouais, bien
sûr.
C'est
quoi, 2m10, Moussa ?
Je vais te dire ça, mais c'est vrai que ça, le chiffre. Ouais,
2m11.
Il fait 2m11. Ce chiffre-là est extraordinaire. 3,9 rebonds offensifs par match, sachant qu'il joue 23 minutes. C'est énorme. Comme tu l'as dit, dès qu'il joue et qu'il y a eu temps de jeu, il y a double-double. Et je voulais juste te lancer là-dessus, parce que tu en as très bien parlé de Moussa, mais il y avait eu notamment, je crois, une interview récente de Rémi Réverchon avec lui dans le cadre de NBA Extra. C'est. Moussa a fait un choix cet été, dont on a parlé, de savoir s'il allait rester avec le groupe France ou s'il allait bosser pour lui, notamment pour être prêt pour la saison des Hornets. Force est de constater que le choix qu'il a fait, c'était pas pour aller boire des mojitos. Le mec qu'on est en train de voir là sur le parquet, comme tu l'as très bien dit, c'est un mec qui a taffé.
qu'a taffé.
Il a taffé fort, Mousse.
Et à fin. Parce que moi, sur le côté choix, je pense qu'il pourrait faire ce début de saison en ayant fait l'Eurobasket avec la France. C'est
oui.
pas, c'est, tu taffes hein, l'Eurobasket, t'es là, t'es en match, t'apprends d'autres trucs et tout.
Mais quand la décision avait été prise, juste,
on
je voulais redire que
ouais.
Et la décision qui a été prise, elle était un petit peu justifiée par « j'aimerais travailler, notamment sur mon jeu et sur ce qui se passe, pour préparer une grande saison NBA ». Bah, pour un mec qui a dit ça, il y a les actes derrière. Et ça, je trouve ça propre.
Il y a les actes, il y a les stats, il y a l'attitude. J'aime beaucoup l'attitude. C'est Diabaté, quand il rentre en jeu,
soldat, hein.
C'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe d'en face. Hein. Et donc, ce qui est vraiment cool, parce que là, on vient de faire toute une émission sur les joueurs français et tout. Il y a des joueurs qui ont des très gros succès, mais il y a aussi pas mal de joueurs, parce que forcément, on a 19 joueurs en NBA, là, donc il y en a pas mal qui ont pas leur chance. Il y en a peut-être, malheureusement pour eux, qui l'auront jamais, là, hein, on va voir et tout. Moussa Diabaté est en train de poser les bases d'une bonne grosse longue carrière de pivot backup avec des vraies minutes genre 6ème 7ème homme. Ouais c'est ça qu'il est en train de faire. Alors vous allez me dire oui mais c'est aux Rockets c'est tout. Moi je pense qu'il y a un paquet d'équipes qui prendraient bien Moussa Diabaté et à minima ça lui filerait aussi les 23 minutes en sortie de banc, voire il serait le pivot titulaire et il s'en porterait pas moins bien.
Et aujourd'hui tu parles de 23 minutes mais un jour ce sera 23 millions hein.
Ah,
s'il continue
comme ça,
ils vont se dire attends mais c'est facile d'avoir
plus,
ça.
Il est mobile,
il est sympa, il est mobile, il s'entend bien avec ses meneurs, c'est super.
Il s'entend bien avec ses meneurs, il pose des bons gros écrans. En plus, il y a une vraie, enfin là où il y a eu le travail offensif cet été, donc il y a quelques petits moves, du toucher, des petites mains gauches et tout pour mettre des petits paniers près du cercle. Et il y a quand il y a faute sur lui, il provoque plus de lancers et il y a un pourcentage au lancer qui s'améliore en plus. Donc ça commence.
Non, total.
Genre non vraiment c'est super début de saison de Moussa Diabaté, je suis en kiff.
De pareil, et évidemment cette phrase donc qu'on ne pensait pas prononcer, mais oui, c'est un des 5 meilleurs Français en NBA cette saison, sur ce début de saison.
Il y a qui devant ?
Victor,
oui.
Rudy,
oui.
Alexar,
oui.
Tu peux discuter avec Zachary,
Nico, Batum. Non mais parce que c'est pas les mêmes rôles quoi. Nico Batum est dans une grosse équipe.
Je vais en parler, t'inquiète.
Genre Moussa Diabaté dans la rotation des Clippers, faudrait voir où il en est. D'ailleurs
absolument.
C'est les Clippers qui l'ont drafté.
Oui.
Bah, il l'aurait aujourd'hui, peut-être qu'il le ferait plus jouer et qu'il serait plus content qu'avec un Brook Lopez. On est d'accord.
Mais c'est un des cinq, quoi, tu vois.
Enfin, oui, il est là.
Il fait un meilleur démarrage que Gershon, que Bilal, que tous les gars qui ont été draftés, que Ousmane, que Tidjane.
Oui.
Tidjane, on n'a pas parlé de lui, on a vu un peu en G-League, mais compliqué. Putain, allez, Tidjane.
C'est tellement dur. Eh ouais. Mais bon. C'est aussi le genre d'apéro où voilà, on est obligé de parler de manière honnête de certaines déceptions ou de certains Français qui.
Et puis on les suit tous les soirs. Quoi.
Qui n'avancent pas comme on voudrait. Par contre, ça montre aussi l'étendue du réservoir français.
Ah, ça c'est énorme.
Ça fait plaisir.
Et c'est pas prêt de s'arrêter évidemment. Et pour ceux qui l'ont vu, notamment, j'ai pas mal parlé sur les réseaux de Camardine, Ilias. Qui a très bien démarré à Ole Miss au côté universitaire.
Le Tyrese Haliburton français.
Absolument, vous pouvez voir le Tyrese Haliburton français. Et aussi, c'est Adem Atamna, je crois, en France, qui cartonne avec l'Asvel. Enfin, on vous fera un peu
Ilias,
les profils.
Camardine, il est pour la draft 2026.
Il est plus âgé, donc il va probablement.
Il va tenter sa chance, ouais, c'est
oui,
ça, ouais.
Parce qu'il a 22 piges, je crois.
Ouais, mais c'est pour ça que je demande. Oui. Ok, est-ce que la draft 2026.
C'est compliqué.
Là, j'ai déjà trop d'images qui pop, des scouting reports qui arrivent jusqu'à moi. Je fais putain, lui il va arriver en NBA.
C'est compliqué.
Lui, je fais, mais lui c'est le numéro 1 draft. Puis après, je vois une vie.
Ah non, c'est peut-être lui.
Ouais.
Moi, Maté, évidemment, oui, malheureusement, vas-y. Pour finir, c'est juste
pourquoi
un message.
Malheureusement
bah, parce que c'est un message juste pour Nico Batum. Parce que j'adore Nico Batum et on est tellement de Français fans de NBA à aimer non seulement ce qu'a apporté Nico, mais ce qu'il continue d'apporter. Et. Il y a eu le transfert à Philly qui lui a quand même qui l'a fait bouger de Los Angeles et il a toujours été aussi pro. Il a fait le
une
travail
saison.
À Philly et ensuite il est revenu à Los Angeles, s'était retrouvé Tyronn Lue, s'était retrouvé la famille, etc. Et il y avait quelque chose de l'ordre d'une potentielle last dance là avec ses Clippers, Batum Bataillon, besoin de lui, de son expérience et d'avoir des armes autour pour offrir à Nico notamment. Entre plein d'autres garçons, hein, Chris Paul, Brook Lopez, etc. Mais la possibilité de juste avoir Nico Batum en playoff. Où on l'a vu même là face à Denver la saison dernière, où tu sais quand même qu'un mec comme ça, ça peut parfois défendre sur Jokic, ça switch sur Aaron Gordon, et puis on va se débrouiller avec d'autres garçons.
Ça met ses trois dans le corner.
Ça met ses trois dans le corner, et ça fait que des winning plays. Mm. Je suis d'une tristesse absolue, parce que vous le savez, on a fait un apéro Clippers là. Et là, on n'est pas du tout sur le chemin d'une très belle last dance pour Nico Batum, et ça m'emmerde. Ça m'emmerde fort parce qu'on peut dire plein de choses sur Nico Batum, mais dans sa carrière, où il a été, ça a gagné. Lorsqu'on était chez les Early Blazers, ils étaient forts. Nico Batum était titulaire. Lorsqu'on était chez les Hornets, c'était pas des finalistes NBA, mais par contre, dites-moi la dernière fois quand est-ce qu'ils ont joué les playoffs. Merci, lol, il y avait Nicolas Batum. Factuel. Factuel. Il a été chez les Clippers. Et on a pu voir notamment les Clippers aller jusqu'en finale de conf, et on l'a vu parfois être en pivot face aux Mavs de Luka Doncic avec Porzingis et tout. Enfin bref, quand Nico est là, même avec l'équipe de France, les meilleurs résultats, c'est avec le
tu
numéro 88.
Tu pars du principe
88.
Que ça va être sa dernière saison, là ?
Non, c'est ah. juste que je suis d'une tristesse absolue parce qu'il n'en reste pas 13. Spoiler.
Enfin, pourquoi pas, hein,
pourquoi pas, Nico, hein, mais il n'en reste pas 13. Et en fait, je suis triste parce qu'on ne sait pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais quoi qu'il en soit... Je n'avais pas imaginé que cette potentielle dernière ou avant-dernière, elle démarre comme ça.
Moi, je pense qu'il faut qu'il vienne.
Et je suis triste.
Tu vois, Phoenix, c'est pas loin de Los Angeles. Il faut qu'il vienne faire une dernière petite pige. Là, on va remettre l'équipe en place. Il revient faire une dernière petite pige dans une équipe compétitive. Boum. C'est pas loin.
Bien sûr. Et tu vois, moi, parfois, je repense à Los Angeles et je pense aux Lakers. Où je me dis que tu vois des choix qui ont été faits sur des Jay Claravia. Non, mais tu vois par exemple les choix qui ont été faits l'été précédent et qui sont des choix. Nico Batum, loyauté, loyal, il a adoré les Clippers, ce qu'ils ont pu lui offrir parce qu'après les Hornets c'était difficile.
Tout à fait, non,
ils l'ont bien relancé.
Il
Batum Bataillon.
De Tyron Lue.
Absolument, et de Tyron Lue, on avait déjà échangé avec Nico, c'est quand même un coach qui est un de ses coachs préférés dans sa carrière. Donc je suis pas en train de dire qu'il aurait dû partir chez l'ennemi d'en face, hein, chez le traître de l'autre côté du vestiaire chez les Lakers. Mais. Voilà, je suis un peu tristoun parce que c'est un extraordinaire joueur qui, je trouve, a eu une opportunité dont on rêvait tous les deux sur le canapé. C'était que, quitte à finir l'aventure avec l'équipe de France, autant affronter les Américains en finale des JO.
Magnifique.
Et le dernier match de Nico Batum dans l'histoire avec l'équipe
c'est
de France,
finale olympique.
C'est une finale contre LeBron James, Stephen Curry aux Jeux Olympiques à Paris.
Il est en train de contester un shoot de Curry. Et voilà.
Absolument. Et la tournure qu'on est en train de prendre, potentiel,
ça pue.
C'est que Nico Batum, il est dans un putain de garbage time en avril parce que les Clippers, ils n'arrivent pas à aller au play-off.
Non, j'avoue.
Et ça, moi, je suis tristoun.
Bah ouais.
Donc, il faut que ça se reprenne. Ça va pas, c'est pas Nico qui va redresser le navire Clippers. Il faut que ce soit autour de lui. On en a fait tout un apéro. Mais voilà, je suis un peu triste parce que j'adore voir Nico dans des winning teams. Et là, en ce moment, c'est le bordel aux Clippers et je trouve ça pas cool pour lui. Donc,
c'est pas fini.
Je crois.
Allez,
c'est
on y croit.
On y croit. Voilà pour les Français.
Petit bilan au bout
d'un
mois.
Exactement. Dites-nous ce que vous pensez de ces 5 questions et si vous avez une grosse take, évidemment.
Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que genre on se laisse, jusqu'à mi-janvier pour voir un peu, pour refaire un petit bilan.
Ouais. On fera un gros bilan quand Sabonis sera ailleurs et que Maxime Reynaud aura du temps de jeu, quand les Clippers iront mieux et Nico Batum sera là, quand Wemby se sera remis sur deux mollets, bien évidemment.
Et que Garchon jouera 25 minutes par match.
Exactement. Sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous rappelle bien évidemment que vous pouvez foncer chez les copains de RhinoShield, je le rappelle, moins 50% jusqu'au 3 décembre sur la plupart des articles accessoires et en ajoutant le code TRASHTALK.
Vous pouvez ajouter 15%.
Vous pouvez ajouter moins 15%. Et nous, on vous fait des gros bisous. Allez les Français en NBA. On se
ciao
retrouve très vite sur YouTube.
Bisous.
Des bisous.
Ciao.